When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue sur Salut ça va by Take Care, le podcast qui booste tes ambitions. Toutes les deux semaines, on se retrouve pour explorer les clés de l'équilibre entre vie pro et vie perso, te donnant tout ce qu'il faut pour naviguer dans l'univers entrepreneurial avec confiance et sérénité. Envie d'aller plus loin? Rejoins-nous sur takecare.co pour découvrir nos coachings personnalisés. Bonne écoute!
Bienvenue Fleur sur le podcast.
Merci.
Je suis trop contente de te recevoir. Tu es la première invitée vraiment officielle de ce tournant entrepreneurial et tu incarnes tellement bien l'entrepreneuriat au féminin parce que tu es une femme tellement multicasquette.
Je suis très honorée. Merci à toi.
J'ai hâte qu'on découvre un peu plus de ton parcours, mais j'ai envie qu'on revienne un peu en arrière et que tu me dises qui était la Fleur petite. T'étais quel genre d'enfant de ce que tu te souviens, de ce qu'on t'a raconté
Alors moi, toute mon enfance, j'ai été la fille très scolaire, la petite première de classe, tout ça, très centrée sur l'école. Je bavardais beaucoup en classe, mais j'ai toujours été pleine d'énergie. C'est clair que j'ai jamais été dans mon coin, toujours avec plein de copines, tout ça. Et en grandissant, ça n'a jamais changé. J'ai toujours voulu faire plein de choses. Un matin, je voulais être vétérinaire. Le lendemain, j'ai dit à ma mère, je vais être avocate. Après, je voulais être médecin. Et puis, j'ai jamais su trouver réellement ma voie. Et je me suis dirigée vers un corps de métier, donc vers l'immobilier, parce que c'était un métier qui se rapprochait de ce que faisait mon papa. Et ma voix, moi, je ne la connaissais pas réellement. Je me suis dirigée vraiment vers la facilité, mais je savais qu'une seule chose, c'était que je voulais faire plein de trucs.
Ouais. Même l'immobilier, en soi, tu fais quand même pas mal de trucs. Enfin, tu bouges et tout. J'imagine que c'était un secteur où tu savais que tu n'allais pas forcément rester assise.
Ça, c'est clair. Il y a le côté bureau, et il y a le côté terrain où tu fais des visites, tout ça. Mais je suis quelqu'un qui me lasse très vite.
Ouais.
Et j'avais peur d'être très vite lassée de ma petite routine quotidienne, de le vendredi, je fais mes visites, le lundi, je suis de permanence. C'était pas quelque chose qui m'animait.
Ouais, t'avais autre chose à découvrir. Tu sentais que, en tout cas, dans ton tempérament, t'étais quelqu'un qui avait...
Exactement.
Qui avait besoin de...
Je serais jamais restée toute ma vie dans un même métier, c'est impossible.
Ouais. Et autour de toi, justement, est-ce que t'as eu des modèles d'entrepreneurs, de personnes qui étaient dans ce milieu-là ou pas du tout?
Moi, la seule personne qui m'a servi de modèle, mais du coup, ça s'est arrêté très jeune, c'était mon papa. Jusqu'à mes 14 ans, je l'ai vu exceller dans tout ce qu'il faisait. C'était vraiment l'homme de la famille, quoi, en gros. Et mon seul modèle de réussite, de boss, c'était cet homme-là. Donc, je me suis gardée cette image-là de lui, de réussite, vraiment d'exemple, l'homme qui dirigeait complètement la famille. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire la même chose, pas forcément dans le métier, parce que comme je te dis, l'immobilier, c'est pas ce qui allait m'animer toute ma vie, mais la même chose dans le sens où, autour de moi, c'était ce que je voulais dégager. C'était la femme hyper girl boss qui rendait service à tout le monde, qui rendait service même auprès de sa famille, qui rendait en gros la monnaie de la pièce à tout le monde, à tous ceux qui avaient rendu service, quoi.
Ouais, t'avais quand même cette image de c'est possible de ne pas suivre forcément la voie classique.
Oui, ça je le savais.
Être salarié, c'était possible
pour
toi d'avoir
d'autres... Ah oui, à 18 ans, je voulais être patronne, quoi. Ouais. Ça oui, ça je le savais déjà.
T'avais ce truc en toi.
Je savais pas comment, mais je le savais déjà.
Ouais, c'est beau en vrai. Parce que ça veut dire que c'est aussi, et je pense dans pas mal de parcours qu'on voit de personnes qui sont à leur compte, entrepreneuse, peu importe dans le domaine, c'est enfant déjà, t'as ce truc de quand on te dit que c'est possible, quand t'as des modèles de possibilités, même si c'est pas les domaines qui t'intéressent, tu te dis en fait j'ai le choix, et le choix c'est quand même c'est un luxe en vrai, de se dire aujourd'hui je suis pas cantonnée uniquement à un seul chemin, et même si c'était ton papa, même si c'était dans un secteur qui était pas celui qui te parlait, en vrai aujourd'hui t'incarnes aussi celle qui dirige, tu vois, on aura l'occasion d'en reparler parce que je sais que t'es pas du tout dans le stéréotype de la boss qui crie et qui, et tant mieux, mais c'est vrai que, c'est un...
Même si mon seul modèle, c'était un homme, je voulais atteindre ce modèle-là.
Ouais, je comprends. T'as commencé, du coup, toi, sur TikTok, c'est ta plateforme qui t'a lancée, et celle que t'investis encore vachement, parce qu'il y en a qui se lancent sur une plateforme qui, après, une fois que, ça réussit ailleurs, elles s'en vont. Toi, c'est vraiment, j'ai l'impression, ton...
Ça a toujours été mon petit bébé. J'ai essayé de faire un petit peu Instagram, mais je fais des stories, je fais voilà. Mais je suis pas fan de la photo, pas fan du contenu temporaire comme la story. Mais moi, c'est TikTok.
Ouais.
C'est vraiment les vidéos, c'est parler à ma communauté, un contenu qui reste. C'est-à-dire que pour moi, chaque vidéo que je poste, c'est comme si je rajoutais une petite photo, en fait, à mon journal intime. C'est plus un magazine de souvenirs. Ouais. tu vois, souvent je remonte dans les vidéos, je regarde des très anciennes vidéos, je suis hyper nostalgique de ce que j'ai posté il y a un an, je regarde mes anciennes ouvertures de magasins, enfin, c'est des trucs que j'adore. Ouais,
c'est ton carnet de bord en fait.
Ouais, c'est ça, petit carnet de bord, c'est vraiment ça.
Et c'est ça qui est ouf, c'est que ton parcours il a tellement été exponentiel, t'as eu une croissance tellement incroyable que justement de pouvoir te raccrocher à ces petits bouts de vie capturés.
J'ai peur de l'oubli, pas que les gens m'oublient, mais moi d'oublier ce que j'ai pu accomplir au fur et à mesure, parce que tout s'enchaîne tellement rapidement. Je me dis, si je le capture pas en vidéo, et plus d'une fois on me l'a dit, mais t'as pas envie de profiter du moment plutôt que de le filmer. Mais moi, mon bonheur, c'est de l'enregistrer sur image et de pouvoir le revivre mais 50 000 fois. Ouais. Ça vraiment, c'est ce qui m'anime.
Oui, parce que t'as l'impression de laisser une trace de ce par quoi t'es passé. Et...
Ouais.
Et ouais, c'est un témoignage.
Ah, au monde, hein, mais une trace à moi-même, quoi. Pouvoir le visualiser à l'infini, quoi. Ah, j'adore.
C'est fou, parce que ça a commencé comme ça et ça a débouché sur quelque chose de... toujours digital, mais aussi de très physique, on aura l'occasion d'en reparler. Quand tu t'es lancée sur TikTok, c'était quoi tes perspectives ? Est-ce que t'étais là uniquement pour le fun ? Est-ce que t'avais déjà une envie de faire un peu plus, que ce soit, tu vois, un moyen, un vecteur de d'autres choses ?
Bah, alors moi, quand j'ai commencé sur TikTok, à côté, je travaillais dans un supermarché, donc je bossais que du matin et j'avais mes après-midi de libre. Donc à la base, c'était plus pour tuer l'ennui. Ouais. Je me suis lancée juste après le confinement, parce que du coup, j'ai découvert TikTok au fil du confinement,
comme beaucoup
de monde. Mais je ne m'étais pas lancée pour autant, parce que c'était quelque chose qui me faisait peur. J'avais peur de la critique, et je crains énormément la vie des autres. Et après le confinement, je me suis dit, bon, bah, j'ai rien à faire de mes après-midi, let's go, je vais lancer un petit tuto coiffure. Et le tuto a tellement marché que je me suis dit, mais c'est hyper adorable d'avoir des gens qui me complimentent sous une vie, alors qu'ils ne me connaissent même pas. Et là, j'ai découvert... pas l'influence, parce que c'était mes tout débuts et j'avais une cinquantaine d'abonnés, mais je me suis dit, c'est dingue que des gens qui ne me connaissent même pas me redemandent à faire des vidéos comme si ça les animait eux, alors que moi, c'était clairement du pur kiff de le faire. Donc j'en ai fait une deuxième, une troisième, et c'est devenu ma routine de mes après-midi après le travail. Je faisais ma mise en rayon le matin, et l'après-midi, je faisais mes petites vidéos.
C'est venu complètement s'implanter dans ta routine quotidienne.
Ah oui, j'allais pas faire du sport, j'allais tourner mes petites vidéos. Je prenais ma voiture, et j'allais toujours me poser devant un même buisson. C'était mon petit coin, parce que j'avais un peu honte de filmer dans ma chambre, ou de parler face à une caméra. Ouais. Au début, c'est compliqué quand tu... Enfin, normalement, elle sait pas que tu fais ça. Et tous les jours, je prenais la voiture et j'allais me poser et je parlais à ces copines là virtuelles, quoi.
Ouais, t'as une communauté qui est particulièrement active et engagée et très vite. Enfin, quand on parle de la communauté de fleurs, je sais que t'es connue sur les réseaux, mais ta communauté est tout au sens remarquable, quoi. Ouais, c'est incroyable.
Elles sont investies, mais depuis le tout début, hein. Depuis vraiment mes tout débuts, alors que j'étais même pas encore, je vivais même pas encore de ça, elles étaient investies dans ma vie, elles attendaient de voir mon évolution, elles me demandaient des nouvelles. C'est-à-dire que, de toute façon, j'ai jamais disparu plus de 2 jours sur TikTok, parce que j'aime tellement ça que j'ai toujours envie de poster. C'est vraiment une passion pour moi, TikTok, hein, c'est bête, hein, mais j'ai jamais fait de sport de ma vie, j'ai jamais eu de passe-temps, de hobby, j'ai jamais aimé la peinture, j'ai pas de talent, je sais pas chanter, je sais pas danser, il y a jamais rien qui m'a animée dans ma vie. Vraiment, c'est hyper triste, hein, mais depuis que j'ai connu TikTok, ça, c'est bête, ça a changé ma vie, vraiment.
Ouais, et puis en plus, maintenant, ça a rayonné sur tellement d'autres pans de ta vie que TikTok, c'est le démarrage d'une nouvelle vie
pour toi. Ah ouais, complètement.
Et il y a eu Fleur sur TikTok, et maintenant avec Fleur et compagnie.
Bah, quand j'ai vu que ça a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis dit, je me donne un an, je vois ce que TikTok ça donne, mais j'avais pas de penser monétaire, financière, tout ce que tu veux. C'était pas du tout dans ce sens-là. Moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux intégrer TikTok à ma vie tout en travaillant à côté. C'était pas le but de vivre de TikTok. Ouais. C'était comment je peux continuer à kiffer ce que je fais en ayant une vie professionnelle à côté. Parce que, par exemple, tu vois, dans l'immobilier, en tant qu'agent immo, tu as une crédibilité à tenir auprès de tes clients. Tu peux pas te permettre de faire des tutos coiffure, par exemple.
Oui.
Donc, je me suis dit, ça va être compliqué de combiner une vie professionnelle de boss que je voulais avoir, tu vois, avec moi qui faisais mes petites vidéos.
Et en fin de compte, aujourd'hui...
Et au final...
Au final, t'es une boss et t'es sur les réseaux. Comment est-ce qu'est née Fleur et compagnie ? Comment est-ce que c'est arrivé tout ça ?
Alors, quand je me suis lancée vraiment à temps plein sur les réseaux, je faisais mes petites vidéos quotidiennes comme d'habitude, sauf que j'avais plus de 35 heures à côté. Et donc, une fois que j'avais tourné mes 2 petites vidéos le matin, j'avais plus rien à faire.
Ouais.
Franchement, j'ai tenu 10 jours. J'étais triste, mais comme pas possible, parce que je ne me sentais pas stimulée. Il n'y avait rien qui m'animait. C'est-à-dire que, comme je te dis, ça me prenait 1 heure par jour. Et c'était ça maintenant. C'était devenu ça, ma vie et mon métier. C'était impossible pour moi. J'ai besoin de faire plein de choses, comme quand j'étais petite.
Quoi.
Je me suis dit, c'est pas possible. Encore si j'avais le sport à côté, un autre truc. Mais là, je me suis dit, attends, j'ai que ça. Ça ne peut pas être que ça. Et je me suis dit, c'est le moment de lancer un truc. J'ai une audience qui m'écoute. À l'époque, j'avais, je crois, peut-être 400 000 abonnés. Enfin, je dis à l'époque, c'était il y a un an et demi. Mais je me suis dit, c'est le moment de lancer peut-être quelque chose. Et j'ai cherché, j'ai vu que c'était le début un petit peu des small business sur TikTok. Je voyais beaucoup de bijoux. Bon, moi, les bijoux, j'ai jamais aimé. Mais je me suis dit, le vêtement. Paradoxalement, j'ai jamais réussi à m'habiller. J'ai pas du tout à sortir, par exemple, tu vois, un haut et un bas. Je suis nulle pour ça. Et je me suis dit, viens, je lance ma collection de robes. Donc, j'ai commencé par les robes. Avec une petite collection été, je me suis lancée le 27 avril.
C'est fou.
Incroyable. Et là, c'était le début d'un truc de zinzin. Et j'étais très loin d'imaginer, vraiment.
C'est allé hyper vite. Comment, toi, t'as switché vers ce statut de je suis à la tête d'une entreprise? Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as réalisé, est-ce que tu réalises le fait que, il y a Fleur sur les réseaux, mais il y a Fleur, en fait, qui a une entreprise qui est, on ne peut plus, alors, classique, entre guillemets, dans le sens où, comme n'importe quel autre entrepreneur, t'as des charges, t'as de la comptabilité, t'as réalisé ce switch-là, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure de l'avancée de ton projet?
D'un côté, je te dirais au fur et à mesure, mais de l'autre, je crois que je ne l'ai toujours pas réalisé. Parce que ça s'est tellement passé vite en un temps, mais si restreint, en fait tout s'est enchaîné. Dès qu'il y avait un truc qui s'arrêtait, j'avais besoin de relancer quelque chose d'autre pour me stimuler encore. Et là, je suis dans l'engrenage de me dire toujours plus. Ouais. C'est vraiment le toujours plus. J'ai jamais eu le temps de me poser, de me dire regarde ce que t'as fait. Tu vois, à part, comme je disais tout à l'heure, regarder des petites vidéos pour me dire purée, c'est dingue, j'ai ouvert un magasin. Mais moi, dans ma tête, c'est une petite étape, tu vois, parce que je vois tellement plus grand, je me dis c'est pas grand chose. Et je réalise de temps en temps quand les gens me disent mais Fleur, tu te rends compte que c'est dingue, t'es super jeune et tout. Et moi, je leur réponds « Ouais, c'est cool. » Mais dans ma tête, je suis encore dans le déni, je pense.
En même temps, on en a parlé avant d'appuyer sur play de ce podcast, mais le fait que tu sois dans ce truc du multitasking en permanence, c'est-à-dire que tu as toujours quelque chose à faire. Quand tu es dans le faire, tu ne peux pas être dans l'être à 100% et te retourner en te disant voilà ce que j'ai accompli, j'en suis là, tiens, quelles sont mes perspectives, etc. » T'en es pas là parce qu'en fait, t'as été tellement prise dans l'engrenage d'un truc que tu kiffes en plus. Tu vois, quand tu vis un engrenage de trucs pas cool, t'as qu'une envie, c'est justement de te poser, de prendre du recul. Là, t'es dans un truc où tu veux profiter, quoi. T'es dans cette excitation et j'ai l'impression, comme tu dis, je pense que ça fait partie de toi. Je sais pas si t'aurais pu imaginer une vie de travail plus rangée, tu vois.
Rangée difficilement. Honnêtement, j'ai jamais réussi à m'organiser. J'ai toujours eu, la fille qui a plein de papiers sur son bureau, tout mélangé et tout. Voilà, les post-it de partout. Je suis pas... ça peut être très organisé dans ma tête, mais j'ai besoin que tout se mélange comme ça. J'ai besoin d'être appelée de partout, de recevoir des coups de fil. Sans ça, je me sens pas stimulée.
Ouais.
C'est vraiment ce qui m'anime autant qu'il me fatigue.
Et oui, c'est la dualité. Je pense que beaucoup d'entrepreneuses qui écoutent connaissent ça. Est-ce que pour les personnes qui connaissent pas forcément Fleur et compagnie, tu peux nous donner un ordre d'idée, je sais pas, en volume de commandes ou j'en sais rien, de chiffres que tu acceptes de partager en termes de réussite, de ce que ça représente factuellement en un an et demi? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un small business qui n'en est plus un et qui aujourd'hui a deux boutiques, etc.
Alors là, en un an et demi, on est à 52 000 commandes. Ouais. Donc par mois, j'arrive pas à savoir ce que ça représente parce que dans les débuts, je faisais moins de commandes que j'en fais aujourd'hui. Il y a des mois up, des mois down, forcément. Mais on est en moyenne à 4 000 commandes par mois.
Ouais. Énorme.
C'est quelque chose qui avance super vite. Et du coup, oui, demain, magasins.
Deux boutiques et physiques, donc Lille et Nice.
Exactement.
Et en termes d'équipe, aujourd'hui, vous êtes combien?
Là, on est une dizaine.
Ouais,
je dis une dizaine parce qu'on est encore en embauche pour Lille.
Mais je le vois dans tes yeux que tu le dis.
Ouais.
Mais quand le 10 ans...
Je regarde en l'air. Ouais.
10 personnes, quoi. C'est...
Mais le cap des 10 me fait très peur.
Ouais.
Dans le sens où à Lille, par exemple, c'est une boutique qui est gigantesque, qui fait 155 mètres carrés. Tu vois, j'en ai embauché que deux. Et tout le monde dans les commentaires me disait « Mais Fleur, c'est Euralil, c'est un centre commercial de dingue, tu peux pas empêcher que deux personnes, il y a un roulement à faire, elles ont leur jour de repos. » Et moi, dans ma tête, j'étais tellement centrée sur le truc de « On ne peut pas être plus que 10 employés, parce que je suis juste Fleur, tu vois. »
Tu passes dans la catégorie.
Et du coup, j'ai ouvert avec deux employés. Et ça a été, surmenage pas possible, c'était la catastrophe. Donc là, j'ai ramené une autre fille. Ensuite, là, on est en train d'embaucher une quatrième personne. Mais le cap des 10 est très compliqué, parce que... Comme tu dis, tu vois, c'était le small business à la base.
Ouais.
Je suis connue pour la fille qui a le small business, tu vois, Fleur et compagnie, machin. La nana des réseaux, tu vois. J'ai du mal encore avec le truc de, j'ai 10 personnes à ma charge.
J'ai l'impression qu'il y a ce truc, et arrête-moi vraiment si je me trompe, où tu veux qu'on se dise toujours que, ton entreprise, elle grandit, mais toi, tu restes Fleur.
Ouais.
Et que le fait de grandir comme ça, d'embaucher du monde, etc., t'as pas envie qu'on puisse penser que ça t'éloigne.
C'est complètement ça.
Bah, de qui tu es et de c'est ce pourquoi ça. T'as commencé.
Ouais. Ça m'émeut presque ce que tu dis, je te jure que c'est vraiment ça.
C'est ce que je te disais par rapport aux croyances de... Tu vois, de tout à l'heure, on a eu pas mal de discussions là-dessus et on en parle beaucoup dans ce podcast et je sais que c'est un truc qui est... Si tu peux, je vais pleurer.
Non, non, mais je suis hyper émotive. La phrase, elle m'a vraiment mis une grosse claque, mais ouais, c'est ça.
Je comprends ce truc de te dire tant que je suis pas confrontée au mur du mur et que je suis pas au pied.
Exactement ça.
Ben en fait, je vais me convaincre que... Mais non, non, mais ça va, on est encore,
je te jure,
on est encore petit.
C'est vraiment ouais. ça. C'est que j'ai peur qu'on oublie que moi, je reste vraiment la fille que j'étais avant même d'avoir mes employés et malgré que... Bah, on est en train de grandir, d'exploser, tu vois. J'ai du mal à me dire, est-ce que je vais réussir à rester vraiment la même ? C'est ce qui me fait peur, c'est que je ne veux pas changer parce que mon environnement change. Je veux vraiment rester la même. C'est pour ça que j'essaye d'être aussi proche de mes employés, de toujours presque les materner, tu vois, savoir si tout va bien. C'est que j'ai peur que mon image change parce que je fais tout ça.
Ouais, je comprends.
C'est ce qui fait super peur.
C'est aussi pour ça qu'il y a ce truc d'accumulation aussi et de fatigue et tout, c'est que je le vois parce que je te suis et tout, et je comprends tellement parce que je suis vraiment passée par là, mais ce truc de je veux donner
ouais.
vraiment
ouais.
encore plus que n'importe qui.
C'est ça.
Parce que en fait, cette légitimité d'être là
ouais.
et de continuer à construire mon ouais. business, mais tout en montrant que bah, je suis toujours celle que je suis.
Oui, je veux tellement présente. Toujours montrer ma reconnaissance que j'en suis presque des fois à m'écraser, tu vois. Mais j'ai tellement envie de montrer à tout le monde que j'essaye d'être bien de partout. Et c'est compliqué parce qu'il y a la moi, petite chérie à la maison, tu vois. Il y a la moi avec ma famille, il y a la moi avec mes copines, il y a la moi entrepreneuse. Enfin, la moi patronne aussi.
Ouais.
Il y a tellement de moi différents, mais qui essayent de rester la même fleur, tu vois, c'est hyper compliqué.
Ouais. Et puis t'as la fleur qui doute, t'as la fleur qui est fatiguée, t'as la fleur qui s'en prend, tu vois, plein dans la tête parce que c'est beaucoup. Enfin, t'as la fleur humaine,
ouais.
tu vois. Et souvent, quand on discute de ces casquettes, quand on se dit, bah voilà, moi je fais ça, 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 tu sais, on est dans ce truc factuel de, moi je suis une boss, je suis, tu vois,
ouais.
mais, et t'es là genre, ok. Ça, c'est donc ce que tu fais.
Ouais.
Et t'es qui ?
T'as l'impression que c'est juste la carapace que t'as autour de toi. Mais ouais. derrière, il y a tellement d'autres petites choses.
Mais ouais. Non, mais c'est trop intéressant et c'est tellement précieux que tu nous partages ça parce que c'est la réalité de beaucoup et c'est ce qu'on montre peu. C'est qu'en fait, quand on a un projet qui devient passion, qui devient business et qu'on a des responsabilités,
ah ouais.
en fait, les épaules, au bout d'un moment... Elles sont chargées.
Ouais.
Elles sont chargées. Du coup, toi, aujourd'hui, c'est quoi les piliers qui te font du bien ? Comment est-ce que tu prends soin de toi ?
Moi, je prends soin de moi en m'entourant. C'est-à-dire, ma relation de couple a une part énorme dans ma vie d'entrepreneuse. C'est que si j'avais pas ce pilier-là à la maison, qui est mon copain d'ailleurs depuis 3 ans, mais si j'avais pas ce pilier-là qui m'apporte ma stabilité, ma routine, je crois que je serais complètement perdue. Honnêtement. Parce que si j'ai pas quelqu'un, une épaule sur laquelle verser toutes mes larmes le soir quand je suis à bout, mais je me dis, mais ouais. pourrais vite sombrer, quoi. Franchement, ouais. à qui est-ce que je confierais toutes mes peines, toutes mes inquiétudes ? Et c'est pas ma mère que j'appellerais, tu vois, parce que j'aurais peur qu'elle s'inquiète pour moi. Parce que j'ai toujours la peur de me dire, est-ce que je vais pas transmettre mon stress plutôt que d'essayer de chercher à être rassurée. Donc franchement, mon couple, c'est le pilier de ma vie. Et c'est bête, mais mon chat aussi.
Ouais.
Quand mon chéri n'est pas à la maison, qu'il fait du sport ou qu'il va qu'à ses occupations, et c'est normal, et il faut qu'il ait sa vie aussi de son côté, moi, je me retrouve avec lui et il m'apaise beaucoup.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis seule, mais pas totalement.
C'est une présence.
Voilà. Seule dans le sens où je n'ai pas à parler à quelqu'un, à être sociable, à me justifier sur mon état. Je peux être en train de pleurer, de rire, n'importe quoi. Il ne me demandera pas mon avis, tu ouais. vois. Il ne me demandera pas à me justifier, mais il est là. Donc ouais. je suis seule, mais pas tout à fait.
Les animaux, ils savent quand même.
Ouais.
Il y a un truc qui est au-delà de la parole, qui est au-delà de justement ce que tu as raconté. Il y a juste l'énergie du moment.
Ouais, ça m'apaise beaucoup.
Ouais, je comprends. Moi, j'ai un cheval, du coup. Enfin, j'ai un chien, mais on n'a pas forcément cette relation-là. C'est plus notre chien de famille, voilà. Mais par contre, mon cheval, j'ai ce truc-là de... puis les chevaux, c'est connu pour être des animaux hyper sensibles
ah ouais.
quoi, sur le truc. Du coup, des fois, c'est même déstabilisant parce que, tu sais, quand t'arrives, je sais pas si ça te le fait avec Chouchou, mais tu vois, le fait d'arriver, toi, avec toutes tes émotions de la journée, ta tension et tout, et tu sais, moi, je vois qu'il capte, qu'il y a un truc, genre, limite de... à quelle sauce vous êtes mangé là aujourd'hui, et avec eux t'as pas le choix de juste
de fondre
et
de dire oh
ouais c'est ça, et ça fait du bien de se remettre dans cet état là de et je pense que les animaux c'est un vrai soutien, c'est un, fait partie du
complet
du bien-être et de l'entourage en fait.
Ah ouais,
il y a pas que les humains,
c'est vrai.
Entourez-vous d'animaux. Comment tu gères justement toi la pression et les attentes? On en a un peu parlé, mais est-ce que tu te fixes des objectifs ou est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie de justement matérialiser tu vois, des objectifs de chiffres, des objectifs de rendement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement ou est-ce que tu es plutôt du genre...
Moi, je suis très effrayée par la statistique, les chiffres, les objectifs. Ça me fait très peur parce que j'ai l'impression que si je les atteins pas, ce que j'aurais fait, c'est mauvais. Alors que je peux ne pas avoir atteint mon objectif, m'avoir fait un truc super.
Ouais.
Donc, j'aime pas du tout m'en fixer. J'aime vraiment vivre au jour le jour et me dire bon, bah, let's go, aujourd'hui, on fait ça. J'espère que ça va exploser, mais pas le chiffrer. Vraiment, le chiffrer, je trouve que ça me freine vraiment dans mes réussites, quoi. Parce que ça me stresse et ça me rend moins productive. Et...
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est parce que t'as accordé le truc de si j'atteins ou si j'atteins pas, ça dit quelque chose de moi.
Ouais, c'est ça.
La valeur que je m'accorde est corrélée alors que concrètement... En fait, c'est fou parce que j'allais te dire ça concerne Fleur et compagnie, mais en fait, t'es tellement dans ta marque, bah, Fleur et compagnie, que c'est intrinsèque.
Je suis même pas sûre de réussir à me fixer un chiffre, un objectif, parce que si je m'en fixe un trop bas, je vais me dire, mais non, attends, Fleur, faut pas te sous-estimer, tu peux faire mieux. Mais si je vise le mieux et que je l'atteins pas, je vais me dire, bon, bah, au final, tu t'es surestimée. Et ça, je trouve ça horrible.
T'as pas envie que ça vienne titiller ta confiance ou ton estime.
C'est ça. Je veux juste faire mon chemin, faire ce que j'arrive à faire, et je me dis, en gros, tout ce que je fais, c'est cool que j'arrive à le faire. Mais voilà, faut pas non plus... Faut pas viser trop haut pour rien, tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, toi, tes objectifs, alors, tu te les fixes pas peut-être sur un côté chiffré, mais j'ai l'impression par contre que tu te fixes des objectifs de valeur. Dans le sens, je veux que peu importe la croissance que prend mon entreprise, mes business, etc., il y ait toujours un fil rouge, une ligne directrice d'expérience client, de qualité, qui soit... similaire voire mieux, mais que c'est un peu toi, ton regard à toi.
C'est ça, ouais, complètement. Sans cesse m'améliorer et faire mieux. Ouais, mais tant que je l'écris pas sur papier, moi. Ouais. Mais oui, c'est toujours faire mieux, s'améliorer et voir plus grand, tout le temps, parce que j'aime pas me reposer sur mes acquis et me dire bon, bah c'est juste bien, toujours plus, mais sans me.
Tu vois, c'est un truc qui est très ancré et quand j'en discute avec d'autres femmes qui entreprennent et tout, je comprends parce qu'il y a beaucoup de fois cette réflexion de dire « Ah non, mais moi, j'ai pas envie de me mettre des trucs de chiffre d'affaires, j'ai pas envie de me mettre des trucs de nombre de commandes ou de nombre de clients, etc. » Et en fait, quand je discute avec elles, je me rends compte que c'est des objectifs qui sont beaucoup plus... beaucoup moins matériels, tu vois, beaucoup plus dans la raison d'être, c'est-à-dire dans la vision de leur entreprise, etc. Et en fait, c'est OK, c'est des objectifs quand même. Et c'est ce qui fait que ta marque, je suis sûre que ça participe à la croissance et à la réussite de ta marque depuis le début, c'est que tu es facilement identifiable, c'est-à-dire on sait... que c'est Fleur. On sait que ça a été fait par toi. C'est-à-dire, une ouverture de boutique, même si tu l'as fait à Nice ou à Lille, ben, y a des éléments, des facteurs communs qui font que c'est ta marque et que c'est toi.
Bah, pour moi, je trouve que c'est là-dessus que je joue la durabilité de mon entreprise. Pas sur... Enfin, y a personne qui sait les chiffres d'affaires que je fais sur mon site internet. Que je fasse tant ou le double, ça ne changera rien pour personne. En revanche, mon image et tout ce que je véhicule derrière, ça, c'est ce qui va me faire durer dans le temps.
Mais t'as tout compris. Et t'as tout compris, et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux personnes qui veulent se lancer. On voit beaucoup, on a parlé un petit peu, mais des formations, des trucs de genre lancer son e-commerce, son e-shop, etc. Sur un côté factuel de comment tu montes un site, comment t'achètes chez tes fournisseurs, etc. Ça, c'est une chose, c'est une compétence.
De la théorie.
Tout le monde peut comprendre. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, tu vois, ouvrir un business, c'est quand même facile dans le sens, c'est facile d'accès.
Oui.
Mais sur le côté vision, valeur, image de marque, durabilité, etc. Déjà, bah avec tout le phénomène du dropshipping, de en fait je possède même pas mon stock, j'ai pas de, c'est pas moi vraiment qui envoie les commandes, etc. Bon, ça s'est confronté à une limite, c'est qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui en reviennent parce que sur le long terme il y a pas de, c'est pas pérenne comme vision, comme façon de faire. Toi, comme tu le dis, tes clients, ils savent pas si le mois il a été vert ou si ça a été un peu plus difficile, etc. Parce qu'en fait t'as une continuité qui est remarquable, et c'est là où c'était hyper intéressant pour moi de te recevoir ici, c'est que on peut montrer aujourd'hui qu'il y a des indicateurs de réussite qui sont différents que ceux des chiffres et que ceux qu'on a l'habitude de voir des banques et tu vois des business plans, etc. Et tu l'incarnes hyper bien. Peut-être que toi, tu l'as pas théorisé dans ce truc-là parce que t'es tellement humaine, enfin, t'es tellement dans le truc du cœur, dans ce que tu fais, etc., que t'es pas en train de te dire je vais faire ça pour, c'est pas calculé. Mais toutes les décisions que tu prends pour ta boîte, ça se voit que ça transpire le postulat de base, que t'es 1000 clients ou 50 000.
Non, ouais, ça me fait penser à une vidéo TikTok sur laquelle je suis tombée il y a 2 jours. C'était une jeune fille qui étudiait mon marketing d'entreprise. Ouais. Et moi, devant la vidéo, je me suis dit, ah, elle va étudier le marketing alors que moi, je n'en ai jamais fait. C'est-à-dire que je n'ai pas de marketing pour ma boîte, tu vois ce que je veux dire ? C'est moi et mes émotions, tu vois. Et elle a dit que je jouais en gros sur le marketing d'émotions, ouais. Ça s'appelle. C'est-à-dire vraiment bah, ce que ressent le client face à mes vidéos, face à des pages produits, plein de choses comme ça. Et c'est quelque chose, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit mais c'est dingue parce que je m'en suis même pas rendu compte.
Bien sûr.
Et elle a dit que je jouais sur l'émotion, pas de façon négative.
Non, c'est pas de la manipulation.
Elle a dit au contraire, elle essaye de faire ressentir vraiment l'expérience client via les émotions qu'elle... Enfin, j'ai dit c'est dingue parce que c'est totalement ça.
Mais c'est pas calculé, c'est pas de la manipulation.
Voilà.
En fait, c'est vrai que t'as ce truc de... Ça fait partie de toi, ça se voit. Et c'est pour ça que je pense que t'as une communauté qui est aussi active et empathique avec toi.
Elles sont tellement bienveillantes.
Ça se voit qu'il y a de la bienveillance, etc. C'est parce que... Ça se sent que c'est pas calculé et c'est ce que j'essaye moi de transmettre aussi, c'est le truc, tu sais, on entend parler beaucoup du personal branding, il faut incarner sa marque, etc. Mais soyez vous en fait.
Ah ouais, complet.
Soyez vous
complet.
Dans le plus vulnérable, dans le plus authentique, ouais. Dans le plus simple.
La vulnérabilité, vraiment. Ouais.
C'est un vrai
te
truc.
Te montrer accessible. Enfin, je suis sûre que ça ne marcherait pas aussi bien si j'essayais de faire la girl boss avec des sacs de luxe.
Mais c'est clair.
Parce que ce serait pas moi.
Mais oui.
Parce que ça manquerait de simplicité, de naturel. Ce que j'essaye de véhiculer sur mes vidéos depuis le début, tu vois. On m'aurait dit, mais attends, pourquoi tu nous montres tout ça juste pour essayer de...
De donner une image.
Voilà, donner une image.
C'est dissonant entre ce que tu montres.
Complètement.
Et tes actes.
Complètement. Ça servira à rien.
Exactement, donc soyez vous-même. C'est important.
Exactement.
aujourd'hui, donc, en... Plus de ton site internet, t'as 2 boutiques physiques. Comment t'es passée de ce truc de justement digital à l'expérience dans la réalité ?
Bah alors j'avais mon site internet depuis un peu plus d'un an et j'ai fait une tournée des meet-ups. J'avais été contactée par une organisatrice d'événements qui m'a dit est-ce que ça te plairait de faire des meet-ups ? Donc j'en ai fait 4 en France. J'ai fait mon petit tour dans les 4 coins de la France et tout, c'était super. Et en fait, en rencontrant ma communauté, je me suis dit ah ouais. C'est-à-dire que c'est pas des clients, c'est pas juste du virtuel, c'est pas juste un chiffre derrière mon téléphone, ces gens-là existent.
Ouais.
Là, j'ai pris une claque monumentale, parce qu'on s'est retrouvés à plus de 1000 je sais pas combien à Lille, je me suis dit mais c'est fou, c'est-à-dire que les gens qui me suivent, ils sont pas juste derrière leur téléphone. Et là, j'ai mis la face du réel sur du virtuel, et je me suis dit, bah en fait, pareil, ma marque, elle ne doit pas rester qu'au virtuel, et demain, il peut y avoir n'importe quoi, l'application TikTok, elle peut sauter, je veux dire, je veux être ancrée, mais aussi sur une clientèle de trottoir.
Ouais.
Je veux qu'on me dissocie du digital, quoi.
Du digital.
Et donc, j'ai dit, je vais ouvrir des magasins.
Et là, à quelle personne tu l'as annoncé en premier ? Tu te souviens ?
Je suis même pas sûre, parce qu'en fait, ça s'est fait, je crois, en l'espace d'une semaine. Je suis arrivée au local, il y avait Charlotte, donc mon assistante, enfin, future directrice de Flair et compagnie qui m'aide pour tout et qui est ma première employée, d'ailleurs. Je lui ai dit, Charlotte, on va ouvrir une boutique. Mais on va l'ouvrir dans 10 jours. Et elle m'a dit quoi ? Et je dis franchement, Charlotte, il faut trop qu'on le fasse. Et en fait, on s'est lancé un défi. On s'est dit, viens, on ouvre un magasin, on voit ce que ça donne. Au pire, ça marche pas. Personne s'en souviendra sur notre ligne mort. Genre vraiment, j'arrête pas de le dire. On dit, on s'en fout, même si on foire. C'est pas grave, on aura perdu quoi ? De l'argent. Et ben, on a 23 ans, c'est pas grave. Et Charlotte, elle a dit, bah, let's go. Et du coup, j'ai démarché bah, le petit centre commercial, enfin le grand centre commercial de ma région. Et avec qui j'avais déjà collaboré donc pour un meet-up d'ailleurs, qui m'a dit oui direct. On a négocié bah, voilà, le bail, j'ai visité une boutique, j'ai trouvé superbe. Et franchement, la machine était lancée, on a fait une semaine de travaux et on a
c'est
ouvert.
C'est incroyable.
Vraiment, aussi simple que ça.
Mais tu l'as dit tellement et c'est tellement important ce truc de on essaye et on voit si ça marche.
Ah oui.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ah mais ça, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Vraiment, je peux flopper dans un an, deux ans. C'est pas grave. J'aurais quoi ? J'aurais juste kiffé mon aventure. J'aurais tout fait pour que ça marche. Je me serais, voilà, exportée à Lille, alors que c'est pas du tout ma région. J'aurais fait des trucs de dingue que j'aurais jamais pensé faire du haut de mes 22, 23 ans. Donc même si ça marche pas et que ça vient à couler, moi, je demande pas à durer jusqu'à ma retraite. Hein. C'est, franchement, c'est pas grave. J'ai pas envie que ça passe de génération en génération. Même si c'est temporaire, franchement, ça me satisfait déjà.
Ouais, parce que c'est tellement déjà dans le kiff du truc.
Franchement, je serais contente de l'avoir fait, quoi.
Et ça a été, en plus, un succès tellement grand que tu t'es dit, pourquoi pas Lille ? Mais parce que Lille, alors, bon, moi, j'ai fait, il y a longtemps, mais des tournées des meet-up aussi. Et en fait, je comprends ton choix de Lille.
Ouais.
Parce que il y a un engouement, un investissement,
exactement ça,
un engagement, c'est dans dingue. Les communautés du Nord. Moi, ça m'avait choqué, même Nantes, Rennes, Lille, enfin, j'en ai vraiment des souvenirs.
Ah
c'est,
ouais.
C'est assez incroyable et je comprends que tu t'es dit, bah attends, mais il y a un truc à faire.
J'ai pas choisi Lille pour la ville parce qu'au final, ouais. Je l'ai jamais visité la ville. Hein. Je suis passée un quart d'heure dans le vieux Lille, je connais même pas ce que c'est. Le marché, je le connaissais pas non plus, c'est mais fou. J'y suis juste allée pour la communauté. Parce qu'il y a les Belges qui descendent, il y a les gens de Paris qui peuvent monter en deux heures, même pas en voiture. Et les Lillois sont dingues.
Ils sont incroyables.
Tellement investis.
Ils sont tellement investis. Ouais, c'est ça.
Vraiment.
C'est vraiment engagé. Mais...
Complètement.
Mais c'est fou. Dans ton rôle d'entrepreneuse, de chef d'entreprise au quotidien, c'est quoi tes tâches préférées ? Là où tu kiffes ta zone de génie. Hein. Enfin, moi, j'appelle ça zone de génie, c'est-à-dire que c'est vraiment les trucs dans lesquels t'es douée. Et bon, ça, je suis certaine qu'il y en a beaucoup. Mais non seulement t'es douée, mais en plus, t'as vraiment cette sensation, tu sais, de. Du temps qui passe hyper vite, où tu vois pas l'heure... Enfin, voilà. C'est dans quel moment ?
Bah, alors déjà, c'est dans la partie influence, parce que ouais. Je fais pas que Fleur et compagnie, j'ai aussi ma société sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est toute la partie création de contenu. Ça, j'adore. Tourner les vidéos pour les marques et tout ça, c'est vraiment du réel kiff. Et ensuite, côté Fleur et compagnie, c'est plus... le démarchage, la négociation, tu sais, chercher des endroits sur lesquels m'implanter, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire en plus. C'est vraiment moi, assise sur mon canapé et ma réflexion. C'est bête, hein, mais ça, c'est ce dans quoi je suis la meilleure. C'est réfléchir
c'est
toute seule face à moi-même
oui.
Et me dire, mais il n'y a personne autour de moi. Je regarde juste le mur, je suis comme ça. Et ça, je sais que c'est ma zone. Mais...
Ça fait trop rire parce que hier, j'ai enregistré une vidéo pour une conférence à laquelle je participe bientôt. Et en gros, c'était la trend TikTok de « je suis machin, bien sûr que ». On connaît. Et en gros, c'était « je suis entrepreneuse, bien sûr que ». Et la première phrase que j'ai dit, c'est « je suis entrepreneuse, bien sûr que 80% de mes idées viennent sous la douche ».
Ah, mais complètement. Mais c'est vrai. Seule. Mais c'est complètement vrai.
L'eau qui coule.
Si j'avais quelqu'un autour de moi qui me parlait 24-24, je n'aurais pas l'idée qui me viendra en tête. C'est-à-dire, les moments où je suis le plus productive en termes d'idées, c'est quand je suis seule sur un canapé avec personne. C'est-à-dire, pas de téléphone dans les mains, juste moi face au mur. Et juste là, je réfléchis, je pense à tout. Et là, les idées, elles te viennent, ça fuse.
Ouais. Et c'est ça, le plus compliqué, c'est de couper ces moments de rumination.
Ouais.
T'as les ruminations anxieuses, ça c'est une chose, mais t'as aussi les ruminations créatives.
Qui sont tellement bénéfiques.
Mais c'est incroyable.
Ouais.
Et en même temps, d'arriver à structurer, de se dire, ok, je me laisse pas trop partir là, parce que moi, sinon, je pourrais ne pas dormir de la nuit. Tu te poses et tu dis, oh mon Dieu, mais là, ça
part loin. Ouais.
Et en même temps, ce que tu dis là, c'est pour moi le fondamental, c'est-à-dire que quand tu es entrepreneuse et que tu as volonté d'étendre ta boîte et d'embaucher ou pas, mais en tout cas d'être dans une volonté de croissance, ton taf numéro un, et ça je le répéterai jamais assez, c'est d'incarner la vision de ta boîte. C'est toi, tu es porteuse de cette vision et ton taf, c'est de continuer à avancer, à projeter, à explorer et de partager cette vision-là à tes équipes pour qu'elles comprennent dans quel sens elles doivent bosser.
Le temps de réflexion, il est fondamental.
Mais clairement.
Ouais.
Et c'est pas parce que t'es pas en train de faire quelque chose.
Exactement.
Tu vois ?
Ouais,
c'est
complètement.
Hyper puissant, en fait.
C'est dans les moments où on a l'impression que je ne fais rien,
que tu fais le plus.
Exactement.
En fait, comme il y a peu de gens, je trouve, qui matérialisent ça quand ils sont pas forcément baignés dans ce truc d'entrepreneuriat, mais on se le dit souvent et voilà, et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Être entrepreneuse, c'est aussi gérer des problèmes et régler des problèmes. Enfin, c'est trouver des solutions.
Ouais.
Trouver des solutions en permanence. Et en fait, pour trouver des solutions, faut avoir ce temps de réflexion.
Ouais.
Faut avoir ce moment où juste, c'est comme tes problèmes de maths à l'école, sauf que c'est beaucoup plus fun que ça parce que c'est un truc que tu kiffes. C'est-à-dire que t'assembles des pièces jusqu'à ce que ça matche et que tu dises, ok, on peut empiler la tour un peu plus haut et avancer. Et ça fait partie des moments qui sont nécessaires de caler dans son emploi du temps.
Ah, complètement, ouais.
Parce que sinon, tu fais du multitasking, de petites choses, de micro-tâches en permanence, et en fait, t'as pas le temps de penser.
J'ai pas encore l'organisation parfaite, mais je cale ce moment-là malgré moi. Mmh. C'est-à-dire au fur et à mesure de ma journée, tu vois, quand j'ai un moment où waouh, j'ai envie de me poser, bah c'est là que ce moment il arrive. Mais ouais. Il arrive malgré moi, tu vois, c'est pas moi qui me l'impose, mais c'est là que les idées fusent.
Mais il est bénéfique.
Ouais,
et tu te laisses la place de le faire vivre, tu vois.
Ah ouais, je l'accueille complet. Hein. Quand je vois que je commence à réfléchir comme ça, je me dis let's go, on y va.
C'est trop bien. On va parler un peu du côté organisation interne, etc. Comment, donc toi, t'as recruté, vous êtes bientôt 10, etc. C'est quoi les process d'entretien chez Fleur et Compagnie? Comment tu gères ça quand tu veux une nouvelle personne dans ta boîte? Comment tu fais?
Alors déjà, j'ouvre aux candidatures. Je le dis simplement sur mes réseaux sociaux. Je trouve que c'est le moyen le plus simple. C'est vrai que j'ai pas tendance à... je sais pas, à démarcher sur Indeed ou sur Pôle emploi. Parce que je me dis, j'ai peur que les gens qui postulent n'aient pas la vision...
de ce que ça implique de bosser.
De ce que ça implique.
Dans la boîte, ouais.
Voilà, je sais que je demande pas des postes qui sont basiques. Bien sûr que c'est préparatrice de commandes, bien sûr que c'est vendeuse en magasin. Mais il y a énormément de choses autour. Et ça, difficile de l'expliquer dans une annonce basique de recrutement, tu vois. Du coup, je le fais tout le temps en vidéo. Et je le poste sur les réseaux sociaux parce que je sais que... les gens qui vont entendre la vidéo vont savoir ce que ça implique.
Oui.
Et suite à ça, bah, je reçois des mails.
Beaucoup.
Oui.
On connaît.
Un peu beaucoup de mails. Et puis ensuite, bah, c'est du traitement de mails, quoi. Il suffit de lire et relire. Et ça prend un temps de dingue de traiter les candidatures. Et une fois que j'en ai allé une dizaine favorites, bah, on fait des entretiens d'embauche.
C'est quoi pour toi une bonne employée Fleur et Compagnie? En tout cas, quelles sont, tu vois, les valeurs, les qualités qui sont chères à tes yeux et qui sont importantes, que tu détectes dans les entretiens, dans ce processus justement d'embauche?
Bah alors, premier point, la bienveillance. Pas quelqu'un qui a du vice ou qui serait là, pour la notoriété.
Bien sûr.
Vraiment quelqu'un de sain, quelqu'un de stable, qui soit pas là à vouloir changer de travail dans 3 semaines. Moi, quand j'embauche quelqu'un, je leur dis tout le temps que c'est pas un travail, que c'est une aventure. J'ai pas envie de débuter cette aventure avec l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux, mais malheureusement j'ai jamais embauché de garçon encore. On a sur 2000 candidatures un seul garçon qui postule à chaque fois, c'est très restreint. Mais j'ai pas envie de débuter une aventure en leur disant moi c'est qu'un petit bout de chemin, moi je veux les faire évoluer, au même titre que Charlotte, elle a commencé en alternante, là elle passe directrice. Je veux vraiment leur faire comprendre que c'est des postes qui sont évolutifs et sur le long terme. Donc vraiment, ce que je recherche, c'est vraiment un profil stable, bienveillant et surtout investi. Quelqu'un qui soit motivé, qui pourrait tout donner pour la marque, même si c'est pas leur marque à elles, quoi. Là, j'ai des filles qui bossent avec moi, elles traitent la marque comme si c'était la leur, quoi. Et je trouve ça incroyable parce que dans tous les tafs où j'ai déjà bossé, même quand c'était dans la mise en rayon, tout le monde disait « mais moi, je m'en fous, c'est pas l'entreprise de mon père, machin ». Et ça, ce truc-là, j'ai toujours eu très, très peur de ça, de me dire « bon, là, je vais peut-être embaucher des gens qui, forcément, ne travaillent pas dans l'entreprise qu'ils ont construit. Donc, est-ce qu'ils vont la chérir autant que moi ?» Donc, j'avais vraiment besoin de gens de confiance, moi, à qui je puisse déléguer vraiment une partie de mon image de marque, quoi, sans m'en inquiéter.
Ouais, qu'elles comprennent les enjeux que ça représente pour toi et les détails auxquels tu es sensible. Parce que justement, si tes indicateurs à toi, c'est pas forcément les chiffres, c'est pas forcément les commandes, le nombre de clients, etc., mais c'est dans l'expérience, c'est quelque chose qui est beaucoup moins palpable.
Exactement.
Tu vois, à expliquer, à transmettre. Comment tu leur transmets ça? Est-ce que vraiment t'as un guide, un mode d'emploi? Ou est-ce que tu te dis, je suis en gros le modèle de la file, il faut me suivre, quoi?
Honnêtement, non, je leur ai jamais donné une charte à suivre. Si ce n'est que de leur dire d'être super agréable en boutique, de sourire, de dire bonjour. Ça, je leur ai dit, le seul truc, franchement, je suis pas relou, mais le seul truc sur lequel je suis intransigeante, c'est l'accueil client. On peut pas se permettre d'accueillir une cliente parce que je sais pas. T'as passé une mauvaise journée, t'es du mauvais pied. Après, je leur ai dit tout le temps, forcément, qu'au fur et à mesure de l'année, vous avez des moments où vous êtes au top, des moments où vous êtes fatigué. Ça, je le conçois totalement. Et vous pouvez pas sourire 24/24. Ça, c'est pas du tout ce que je vous demande. Mais ne serait-ce que d'être disponible pour la cliente.
Ouais, pas d'être dans ce truc de vente, mais dans ce truc de disponibilité.
Le truc de vente, j'en ai vraiment rien à faire.
Ouais, t'es pas là.
Ça m'intéresse pas du tout.
T'es dans l'expérience client.
Complètement.
Du coup, toi, t'es passé de l'achat-revente, entre guillemets, avec la sélection chez tes fournisseurs, etc., à une partie de ta collection qui sont maintenant tes créations.
Exactement.
Comment est-ce que tu as voulu insuffler ça? Est-ce que c'est une perspective d'évolution pour qu'un jour Fleur et Compagnie devienne complètement indépendante? Comment est-ce que tu vois ça?
Moi, j'ai commencé avec des fournisseurs, donc de l'achat-revente au début parce que j'avais pas de budget, je savais pas si ça allait marcher, j'y connaissais rien aussi, il faut être hyper transparent, je me suis lancée complètement à l'aveugle, j'ai eu des commandes, je savais pas trop ce que c'était, donc je me suis dit forcément que je vais pas créer mes propres trucs, je n'ai jamais fait de stylisme de ma vie, ni de dessin, je sais pas faire un soleil, donc je vais pas faire des vêtements, donc j'ai commencé par des fournisseurs. Et quand j'ai vu que ça marchait super bien et que bah, toutes les pièces, tu pouvais les retrouver ailleurs. Et c'est le jeu. Franchement, oui, c'est le jeu. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je vois de la concurrence nulle part. Hein. Franchement, il y a de la place pour tout le monde, encore plus sur TikTok. Enfin, c'est tellement ouvert. C'est pas grave que ma petite blouse, on puisse la retrouver chez 5 autres small business. C'est simplement que là, je suis dans une perspective où j'essaye de grandir, d'évoluer et surtout de me démarquer. Parce qu'en gros, si tu te démarques pas, bah, comme je te le dis, ma petite blouse à 29,90, si tu l'as ailleurs, ils iront ailleurs.
Bien sûr.
Tu vois, si elle est en rupture chez moi. Parce que les filles sont tellement actives, tu vois, tellement à fond qu'il suffit que je mette un article en ligne. Des fois, il y a des ruptures de stock en 2 minutes.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est normal que l'achat aille se faire chez la concurrence, tu vois. Mais je me suis dit, il faut que je me démarque. Et je me suis dit, bah, forcément, c'est la création. Il faut créer nos propres pièces. Je veux dire, quand tu vas chez des très grandes enseignes, ce n'est pas de l'achat-revente.
Ouais,
et si on a l'ambition de devenir une très grande enseigne et de s'implanter partout, d'un jour de franchisé ou de je ne sais quoi, et bah, il faut qu'on fasse de la création, quoi.
Et donc là, tu t'es lancée.
Donc là, je ne savais toujours pas dessiner. Je ne savais toujours pas faire un soleil. Mais le hasard de dingue, au mois d'octobre, j'ai embauché Lily, qui dessine super bien. Et je l'ai appris là, au mois de janvier, lorsqu'on a commencé à faire les créations. Elle m'a dit, mais Fleur, moi, si tu veux, je sais dessiner. Et donc, je lui donnais mon idée et elle le retranscrivait sur un papier.
Incroyable.
Et donc, on se faisait des petites réunions à 5-6 avec les filles, même dans des groupes WhatsApp. Tout le monde partageait ses idées, les couleurs, les textures. Et au final, toutes nos idées, parce que malgré qu'il n'y en a aucune qui soit styliste, bah, on est quand même une dizaine de petits cerveaux de nana, quoi.
Ouais.
Et bah, des idées, on en a plein. Des envies de vêtements, on en a plein aussi. Donc, en fait, on suffit.
Ouais.
Et il suffit maintenant de le dessiner. Lily nous aide pour ça. Et bah, il suffit de l'envoyer à l'atelier. Et puis ensuite, on choisit les matières. Ça prend du temps. Hein. Ça prend beaucoup plus de temps. Et en termes d'organisation, c'est pas aussi simple que l'achat-revente. Ça, c'est clair.
C'est clair. Mais j'imagine que quand même, à l'arrivée, le sentiment, il doit être incroyable.
Ouais, complètement.
Ça doit être hyper gratifiant
pour
toi de voir... En plus, quand tu pars d'un besoin et que tu proposes une offre et un produit... Généralement, tu le vends encore mieux.
Ouais.
Parce que tu sais de quoi on parle. Et tu vois, même dans les techniques de vente, etc., on te dit toujours parler du problème du client avant de parler de la solution. Mais parce que c'est une réalité. En fait,
c'est
quand
vrai.
Tu comprends
non,
que
vrai.
L'autre, bah, il comprend ce que tu es en train de vivre, il comprend tes problématiques, tu te dis, OK, bah, en fait, ce qu'il va me proposer, c'est forcément adapté à ce que je recherche. Et tu vois, justement, vos petites réunions entre meufs et tout, bah, déjà, tu as les retours de ta communauté, tu as les retours de l'expérience que vous avez vécue avec l'achat-revente sur ton site, puis en boutique, etc. Et là, tu te dis, OK, là, on a la possibilité de vraiment de A à Z construire quelque chose qui sort de nos cerveaux et qui va se matérialiser en un produit fini.
C'était la suite logique des choses parce qu'on ouvrait des magasins et ma communauté me le disait plusieurs fois, mais pourquoi est-ce que tu fais pas tes propres vêtements? Et pour moi, ça paraissait le bout du monde, ça paraissait hyper compliqué. Je me suis dit, mais attends, où est-ce que je vais trouver une usine? Où est-ce que je vais la trouver? Parce que je voulais à tout prix de l'européen, parce que si je m'envoie à faire du chinois, on me laisse tomber. Je voulais de l'italien, en fait. Et ma communauté m'attendait un peu au tournant parce qu'elle me disait, mais attends, Fleur, tu arrives à faire tout ça? Mais tu fais pas tes propres vêtements? Et je dis, bon, bah, allez, let's go.
Je me
donne 3 mois et on sort un truc, quoi.
C'est comme la boutique en une semaine, en 3 mois. Elle avait ses créations, c'est ça qui est beau. Est-ce que tu as des outils ou des méthodes spécifiques que tu utilises vraiment dans le côté outils, même, j'allais dire bureautique, mais des outils au quotidien? Tu vois, tout à l'heure, on parlait des banques, des outils comme ça qui t'aident dans ta vie d'entrepreneuse et tu te dis, ah bah, c'est vraiment des soutiens, des supports au quotidien de notre organisation.
Honnêtement, je crois que j'en ai pas. Je me sers simplement de ma boîte mail et de mon WhatsApp. WhatsApp m'aide beaucoup parce que bon, on est de plus en plus là d'employés et WhatsApp me permet de faire des petits groupes. Ça, c'est nos façons de travailler. C'est qu'il y a un groupe Lille, un groupe Nice, un groupe local et un groupe Fleur et compagnie. Ça permet d'envoyer l'information au bon endroit plutôt que de me solliciter, tu vois, pour des choses où j'ai pas besoin de recevoir une notification et de me concentrer là-dessus. Charlotte, par exemple, qui gère quand même pas mal de choses, envoie la notification dans le local si je ne suis pas concernée par l'information. Ça arrive aux bonnes personnes, ça évite de solliciter tout le monde. Ça, c'est vrai que ça nous aide beaucoup dans le travail.
Ça vous aide. Il faut que tu découvres Slack, Fleur.
Ah, je connais pas.
Mais non, mais moi, j'ai tellement d'outils. Moi, je suis une dingue d'outils. C'est-à-dire que là, tu me dis ma boîte mail et WhatsApp, je me dis, mais c'est fou que tu arrives à gérer ta boîte avec ça. Moi, je suis une dingue d'outils. C'est-à-dire que vraiment, même en tout petit comité, même, j'ai vraiment des outils pour tout. J'aurai l'occasion de te montrer en vrai, parce que là, vous avez que la voix, mais nous, on a l'image. Et vraiment, il y a des outils, je pense, qui pourraient, mais te simplifier la vie sur tellement de choses, des automatisations et tout, que tu peux faire même, en plus t'es sur Shopify.
Ouais.
Mais tu vas mourir. Mais oh là là. On va pas partir sur ce sujet parce que ceux qui m'écoutent là savent que je peux rester des heures à parler de ça, mais vraiment, ça c'est un truc quand tu découvres. Moi maintenant je fais ce qu'on appelle des automations, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qui se font sans moi. C'est-à-dire que ça se fait automatiquement.
Par exemple quoi ?
Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Par exemple, à chaque fois que un client va acheter quelque chose, alors bien sûr, tu as tous les trucs marketing de panier abandonné, etc. Ça, c'est une boîte de marketing qui s'en occupe. Il faudrait que je t'en parle, mais parce que ça peut être, c'est très intéressant en perspective d'évolution. Mais il y a aussi tous les trucs de « Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a repéré un bug sur le site ». Ok, ça arrive par mail, mais moi, j'ai pas le temps de traiter les mails de SAV qui parlent de bug. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir libellé bug dans le message de la personne, ça va automatiquement se répertorier dans un tableau de bug. Et qu'en fait, moi, en un coup d'œil, je peux, une fois dans ma semaine, me dire ok, qu'est-ce qui bug sur le site ? Qu'est-ce que je dois transmettre à mon
webmaster ? Plutôt que de passer et par la notification et par le mail.
Exactement. Wow, okay. C'est des petits trucs comme ça qui centralisent l'information. Ou alors, par exemple, moi, je sais que j'utilise plusieurs plateformes pour vendre certains produits non physiques. Je passe pas par Shopify. En fait, automatiquement, elles achètent par Shopify. Elles ont l'impression d'acheter par Shopify. Ça passe par ma comptabilité Shopify. Mmh. Mais il y a une automation qui fait qu'elles sont directement inscrites sur la plateforme de produits digitaux. Donc voilà, parce que par exemple, quand tu achètes une formation, tu vas pas recevoir ton colis chez toi.
Bien sûr,
donc
ouais.
Elles sont automatiquement intégrées à cette plateforme sans qu'elles aient absolument rien à faire, sans que personne n'ait rien à faire. Ça se fait automatiquement avec un mail qui est envoyé avec leur prénom, etc.
Ah,
tu
ouais.
crées ce qu'on appelle des workflows, vraiment des flux automatisés de tâches. Ou par exemple, tu as un produit qui vient en rupture de stock. Enfin, sur plein de choses du quotidien sur lesquelles tu vas passer 3 minutes. Tu vois, c'est des fameuses micro-tâches.
Ouais,
3 minutes
plus 3 minutes plus 3 minutes plus 3 minutes, etc. À la fin de ta semaine,
en fait, ça prend un temps de ouf.
Ouais.
Et ça peut tellement te libérer du temps. Moi, j'ai gagné des heures et des heures de sommeil grâce à ça. Je te vends du rêve, là.
Oui, parce que c'est le genre de choses que tu fais avant d'aller dormir.
Mais bien sûr.
Parce que tu dis, je ne le ferai jamais, sinon c'est le pire.
Exactement. Donc, en vrai, non, il y a des possibilités, heureusement, et avec des bons outils, en vrai, tu peux te libérer du temps. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir en explorer. Il faut qu'on discute. Je voulais savoir, toi, est-ce que tu as eu des moments dans cette aventure, de 1 an et demi de Fleur et compagnie, mais en 1 an et demi, il s'en est passé tellement de choses. Est-ce que tu as eu des moments de doute ? Comment tu gères les périodes où tu es plutôt dans le down ? Comment tu arrives à te relever par rapport à ça et à passer dans un autre mood quand tu as l'impression que tout est noir ?
Ma plus grosse période de down, c'était juste après l'ouverture de ma première boutique, donc à Nice. C'est-à-dire que je me suis investie énormément de temps dans un projet. Enfin, énormément de temps, même si elle s'ouvre très vite. Mais ensuite, il y a eu les soldes, et ensuite, il y a eu l'ouverture. Et puis, c'était mes premières salariés. Et plein de choses se sont enchaînées, tu vois. Et au bout d'un mois et demi, je me suis posée. Et une fois que j'avais fini de déléguer mes tâches, je me suis dit, mais ça y est, c'est fait. Et donc, c'est tout. Et là, j'ai eu un down, mais qui a duré un mois, hein, tout le mois de septembre quand même, où j'avais pas envie de poster. Et c'est la première fois que j'ai perdu goût à ce dont pourquoi j'étais passionnée, quoi. Et je me suis dit, mais attends, comment je peux me relever de ça ? Et en fait, la seule manière de me relever, c'était de relancer un autre projet. Et là, c'est ce que je te disais, l'engrenage est toujours plus. J'étais vraiment dans le truc de me dire, maintenant que c'est fait, il n'y a plus rien qui m'anime, tu vois ? Comme si tu avais vidé toute ton énergie dans un truc, te sentir vidé.
Oui.
C'était vraiment une période difficile. Et puis je remettais tout en question. Je me dis, mais attends, là je me suis investie à donf dans un truc. Tu investis aussi beaucoup d'argent quand tu lances un projet comme ça. Et je me dis, mais si ça s'arrête demain, est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses qui se remettent en question. Moi là, apaisée comme je suis, tu vois, je te disais tout à l'heure, si ça s'arrête dans 3 ans, c'est pas grave parce que j'aurais tout donné. Mais quand tu es au lendemain du projet, qu'il s'est concrétisé et que tu es juste vidé, t'as pas la pensée positive de te dire c'est un truc de dingue ce que t'as fait. T'as juste l'idée de te dire, bon bah maintenant il n'y a plus rien à faire de tes journées.
Mais en plus il y a le stress qui redescend.
Le stress qui redescend.
La pression qui redescend.
C'est vraiment le gros contre-coup.
Mais vraiment, le corps, il a tout donné comme après un énorme effort physique.
C'est
tu vois,
ça.
C'était courbature du cerveau quoi. C'est-à-dire que t'es dans le truc waouh, en fait j'encaisse. Et puis c'est tellement, je pense, quand tu lances par exemple ta boutique en ligne, etc., un truc de ouf de te dire un jour ça va exister dans la vie réelle, dans la réalité, tu vois, que quand tu dépasses ça, c'est quoi tes perspectives d'évolution ? Et c'est ce dont on parlait, tu vois, sur la vision et tout. Je pense qu'aujourd'hui, t'as un autre regard parce que t'as une vision de qui tu es, mais surtout comment ça rayonne sur ta marque et comment est-ce que tu l'incarnes à travers tous les différents projets. Et tu vois, tu me parles de création, tu me parles de franchise, etc. C'est des pas de géant, mais qui, en même temps, vu la vitesse à laquelle tu vas, sont...
C'est-à-dire qu'une fois que j'avais ouvert ma première boutique, j'avais l'impression d'avoir atteint le summum.
Oui.
Pour moi, c'était le plus haut point de mes rêves. Tu vois ce que je veux dire ? Et une fois que c'était ouvert, j'ai dit, j'ai plus de rêves. Enfin, tu vois, c'est fini. Donc, c'était ça. Et je l'ai fait. Donc, une satisfaction énorme, mais aussi une peine de me dire il n'y aura plus rien qui m'animera maintenant. Mais c'est après que je me suis relevée, j'ai pensé aux créations, j'ai pensé à d'autres boutiques, parce que si j'en ouvre une, je peux en ouvrir plein d'autres. Je pense à la franchise, il y a plein de choses qui viennent après, mais c'est des pensées que tu n'as pas quand tu es encore small business, tu vois. Là, ça me paraît évident parce que maintenant, j'en ai ouvert deux, presque je prends le coup de main, tu vois. Mais avant même d'avoir ouvert ma première boutique, je ne me serais pas dit, mais Fleur, il y a encore plein de choses après.
C'est bien parce que je vois que tu es en train de te dire, je ne suis plus un small business. Et là, en l'espace de 2 heures... qu'on est ensemble, déjà, je vois que il y a eu du... Mais oui, de l'intégration, mais bien sûr, mais en même temps, attends, c'est tellement d'infos en si peu de temps, enfin... C'est fou. Et justement, si on parle du futur, c'est quoi Fleur et compagnie pour toi dans 3-5 ans? Est-ce que t'arrives à te projeter d'ici là, ou est-ce que t'es en mode je fonce tête baissée et on verra?
Ah non, moi là, je suis dans le truc du... faut exploser, quoi. L'achat-revente, il faut que ce soit derrière nous. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, on intègre la création petit à petit. On avait lancé 6 pièces. Là, on est à 15 et on essaye d'aller de plus en plus vite dans nos idées pour les mettre sur papier et ensuite les envoyer en production. Parce que ça prend du temps. Comme je t'ai dit, il faut plus de 2 mois avant que le vêtement il soit dans notre local, quoi. Donc, il faut une organisation qui soit parfaite. Je sais que c'est du temps et ça, je l'accepte. C'est OK qu'on ne soit pas au moins le mois, tu vois. C'est pas grave. J'ai des délais de retard sur ces choses-là, sur les délais de production. Mais ça, c'est OK, je l'ai accepté. Et du coup, je me suis dit, let's go. Si on en a ouvert 2, on peut en ouvrir plus. Et là, moi, ma vision, c'est de faire que de la créa. Pour ne ressembler à plus personne, en fait, déjà. Faire mes propres trucs et ouvrir encore quelques petites boutiques, quand même. Et une fois en avoir ouvert suffisamment, franchisé, et laisser les gens ouvrir des boutiques à notre place. Wow.
Là, j'ai l'impression que même toi, quand tu le dis, t'es là.
Ouais.
Lâcher prise à ce point. Je le vois dans tes yeux.
Et j'ai un comptable qui m'atteint, mais depuis déjà 6 mois. Hein. Ouais. Il y a déjà 6 mois, il me parlait de franchisé. Je disais, mais attendez, doucement, ça me fait peur. Laissez-moi ouvrir mes petits bébés déjà, mes petits bébés de prédilection, parce que je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ouvre l'île à ma place. J'ai aussi Lyon dans le viseur, tu vois, sur du très court terme. Et lui, il me dit, il faut franchiser et tout. Et moi, je suis là en mode, tranquille, chaque chose en son temps.
En plus, ça va. Je trouve. Enfin, tu oses vachement. Et puis, là, franchisé, tu mets ton bébé entre les mains de nouvelles personnes.
Mais malgré que je franchisse, ça m'empêche pas de faire une charte avec des choses à respecter, un merchandising, qu'est-ce qu'on met à tel endroit, En fait, moi, dans tous les cas, je veux garder la main sur ce que je leur fournis.
Ouais.
C'est-à-dire sur les pièces qu'on met en vente, vu que ce sera que de la création, tu vois, dans l'objectif, c'est vraiment de leur laisser la main uniquement sur les embauches, leur façon de décorer le magasin. Ça, après, moi, c'est plus moi, tu vois, si c'est une franchise.
Non, mais toi, t'incarnes ce dont on parlait, tu vois, de tout à l'heure. C'est ce truc de vision, de bienveillance, des valeurs qui te sont chères, etc. Et après, eux, y a la signature personnelle, on va dire, qui intervient dans ce côté franchisé, mais... Fleur et compagnie reste l'expérience client que toi, tu as voulu offrir.
Exactement, voilà, c'est ça. Ne jamais oublier la base de laquelle on part, puis ça ne m'empêchera pas d'envoyer, un commercial, passer de boutique en boutique, voir si tout va bien. Moi, faire, une fois par trimestre, mon petit tour des boutiques en France, vérifier si tout est OK, que mes clientes, elles sont toujours autant chouchoutées,
j'adore,
tu vois.
Ça va être ton meet-up à toi, tu vas voir.
Voilà, la tournée des meet-up toute l'année.
La tournée des franchisés, on adore. S'il y avait un rêve ou un objectif que tu n'as pas encore réalisé et que tu aimerais atteindre, mais quelque chose qui te fait rêver, ça peut être à court, à long terme, mais vraiment un truc que tu te dis, ce serait fou quand même. Une collaboration avec quelqu'un, tu vois, une création, un shooting à l'autre bout du monde, je te dis n'importe quoi, mais si tu rêves très grand.
Moi, si je rêve hyper grand, ce serait pas un truc avec une marque, ce serait pas le côté influence, ce serait toujours Fleur et compagnie. J'ai pas envie d'ouvrir d'autres business et de m'éparpiller, faire plein de choses. Non, je vais vraiment rester sur le Fleur et compagnie et le faire exploser. Moi, si je vois très très grand, ce serait vraiment d'en avoir partout, même à l'international, et d'avoir vraiment cette image détachée de Fleur. Ouais. C'est-à-dire que Fleur et compagnie est une marque à part entière, comme je te dirais, un Zara, même si c'est pas comparable. Parce que c'est plein de choses différentes, c'est-à-dire...
Non, mais que ce soit détaché de ton image de Fleur qui a commencé sur les réseaux, etc. C'est vraiment Fleur et compagnie, ça existe avec ou sans toi.
Mon rêve ultime, c'est de perdurer dans le temps.
Ouais.
C'est vraiment ça, pour moi, le summum de la réussite. C'est que ce que j'arrive à faire maintenant, on s'en souvienne et on le constate toujours dans 5-10 ans, quoi. Ça, ce serait le truc de fou.
Et c'est beau.
Parce que des boutiques, je peux en ouvrir 10, hein, même dans, les 3 ans à venir. Mais qui te dit que ça ne marchera pas dans 5 ans. Enfin, on ne peut pas savoir, tu vois. Mais la dinguerie, ce serait de se dire, attends, ça fait 10 ans que j'ai Fleur et compagnie sur le dos et ça marche toujours autant, tout le monde sait ce que c'est. Ça, ce serait le plus grand rêve.
On te le souhaite. Et déjà, là, tu l'as formulé, donc...
Oui, je le manifeste indirectement.
Si tu pouvais recommencer, tout recommencer demain, mais tu as l'expérience et toutes les connaissances que tu as maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ?
Non.
Rien.
Ah, ouais, non, je crois pas. Là où j'ai des gros couacs, c'est sur mon organisation au travail. Mais je crois que ça fait partie de moi, le manque d'organisation. Mais non, en termes de petites boulettes, d'erreurs, non, franchement, je recommencerai tout de la même façon.
Ça fait partie de ton ouais. parcours.
Tu vois, si tu me disais, Fleur, est-ce que tu recommencerais direct avec des créas ? Je te dirais non, jamais de la vie. Parce que les gens, ils m'ont connue avec l'achat-revente et c'est ce qui fait aussi l'évolution. Si je ne m'étais pas plantée à deux, trois endroits, non, je referais la même chose.
C'est beau. Et justement, forte de toutes tes expériences, est-ce que tu aurais un conseil, et on va terminer là-dessus, que tu donnerais à celles qui demain, ou même aujourd'hui, hein, ont des projets en tête et rêvent de cette aventure entrepreneuriale ? Qu'est-ce que tu leur dirais ?
Alors, ça va être hyper bateau, je vous dirais de vous lancer, mais surtout qu'on s'en fiche si vous vous plantez. Mmh. C'est-à-dire forcément que derrière, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes de dire ma réputation, les gens vont se moquer de moi si j'y arrive pas. Si tu te plantes, littéralement, dans déjà 3 ans, il n'y a plus personne qui s'en souviendra, mais sur ton lit de mort, tu l'auras fait, on s'en fiche. Pense à toi, je ne sais pas, à ta retraite, qui racontera ça à tes petits-enfants. Si ça n'a pas marché, on ne s'en souviendra même pas. Tu auras juste à ne pas le raconter. Et si ça a marché, en revanche, bah, tu auras toute ta vie pour l'exposer
ouais,
à tout le monde. Quoi.
C'est clair. Et puis,
ah non, donc faites-le.
Et puis, ça peut, ce que je dis souvent, c'est qu'on a cette vision de « Oh là, je plaque tout pour relancer ma boîte », mais en fait, ça peut aussi être différent. Ça peut aussi être un side project qui devient... Bah, comme tu vois ce qui s'est passé un peu pour toi, mais ce truc de bah, je commence un truc, je vois comment ça fonctionne et je me dis à un moment donné ok bah, je peux en faire mon quotidien, c'est possible aussi, vous n'avez pas à tout plaquer et à vous dire ah, bah, si ça rate
vraiment il faut arrêter de suivre la vision de il faut investir 50 000 euros pour lancer son business, pas du tout. J'ai commencé avec des petites commandes fournisseurs à 400 euros, mon site internet c'est Shopify, il n'y a pas besoin d'un budget de dingue, j'ai pas économisé 60 ans de ma vie pour lancer ça. La preuve, j'avais 21 ans quand me suis lancée. J'avais juste mes sous de Carrefour Market de côté, donc ça ne veut rien dire.
Mais oui, mais parce que t'avais quelque chose d'hyper précieux et qui ne s'achète pas, et c'est ça qui est génial.
C'est pas une question d'argent.
Non, c'est qu'aujourd'hui, t'as toujours cette vision et t'incarner ton projet depuis le début, et je pense que là, tu l'as prouvé encore dans toute notre discussion, c'est que en fait, ça fait partie de toi, et ça, c'est du coup quelque chose qui est tellement précieux parce que n'importe qui nous écoute peut aujourd'hui décider de se dire, moi, voilà ce qui me plaît vibrer, voilà ce qui résonne en moi, voilà ce que j'ai envie de faire rayonner.
Être intimement persuadé de sa réussite pour la manifester. Parce que si t'es plein de doutes, que t'es pas sûr de toi, tu seras pas persuadé de ce que tu vendras ou de ce que t'incarneras, parce que bon, ça peut être du e-commerce, n'importe quoi. Mais si t'es sûr et que tu crois, mais à 1000% sur ce que t'es en train de produire et de construire, mais ça ne peut que marcher.
Tu peux briser les portes et
c'est
voilà.
Bête, hein,
même
mais
si
vraiment.
Si tu passes par la fenêtre, tu passes par la fenêtre.
Je
c'est
te
pas
jure,
grave.
Parce que tu trouveras des solutions partout, vu que t'y crois, mais à fond, au plus profond de ton être, quand t'y crois, la vérité, c'est hyper bateau, mais c'est tellement véridique.
Non, mais c'est un état d'esprit.
Ouais.
Et c'est ça qui est le plus important.
C'est le mental, en vrai.
Ouais, le mental. Merci beaucoup, Fleur.
Mille merci à toi.
Trop bien, merci. N'hésitez pas à aller retrouver Fleur, vous verrez de toute façon tous ses liens de boutique, mais aussi de ses
merci.
Profils influence, tout ça, en description de ce podcast. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
Bye. Salut. Bye.
Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, nos coachings en ligne vous attendent sur takecare.co. Prenez soin de vous, à très vite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.